orientale. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lomomatie, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de précision, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs 100% interactive. Quelle est l'incidence du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique sur les développements de la République démocratique du Congo? La question sera abordée à la 5e édition de la conférence nationale des chefs d'établissement, des instituts supérieurs et universitaires, ainsi que l'exposition des œuvres de l'esprit de ce secteur. Nous en débattons avec comme question principale du débat: selon vous, comment ce secteur peut-il contribuer efficacement au développement de la RDC? Composez les 081-890-6315 pour votre intervention en direct et rejoignez-nous aussi sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel fa@radiocapi.net. Merci également pour vos messages postés sur nos différents réseaux sociaux en rapport avec cette thématique. Nous allons découvrir vos messages dans un instant. Toute l'équipe de production des Paroles aux auditeurs est heureuse de partager cet échange citoyen avec vous. Jiro et la Mégie est à la réalisation avec Julie Fezabongonda, Héritier Sidiaka Laït à la mise en onde de cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Jean-Bertin Aboukou, merci de nous envoyer votre message. L'enseignement est une racine principale au développement d'un pays. Vous l'avez dit, chez nous, cela semble être le contraire. Bénédiction Migo de Bukavu renchérit pour dire, pour que ce secteur puisse vraiment contribuer au développement de ce pays, les pouvoirs publics devraient doter à ce secteur aussi stratégique le moyen de sa politique, mais aussi songer à une prise en charge véritable de la jeunesse qui vient franchement de l'université. Cela nous éviterait le fuite des cerveaux et aussi les vagabondages politiques des différents professeurs de l'université. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs 100% interactive. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les amis et à toute votre équipe.
Alors, Franck, vous nous avez rejoint et vous connaissez bien la thématique. Vous avez d'ailleurs réagi par rapport à cette thématique. Comment vous voyez les choses pour vous? Donc, selon vous, comment ce secteur peut-il contribuer efficacement au développement de la RDC?
Merci beaucoup pour ce choix. Les établissements des institutions supérieures et universitaires ont dans l'ensemble une mission spécifique. C'est celle de former les citoyens en leur offrant un arsenal de connaissances scientifiques par rapport aux différents domaines du savoir. Ces connaissances à offrir, ces connaissances à transmettre, se soumettent à une méthodologie et une rigueur scientifique sans laquelle la systématisation et la professionnalisation qu'elles visent comme finalité ne peut être possible. Aussi, devions-nous rappeler que les établissements supérieurs et universitaires ne sont pas avant tout des agences de travail qui ne se substituent pas à cette tâche. L'université se limite principalement à la transmission de connaissances scientifiques à travers des recherches, à travers une certaine rigueur. Toutefois, chez nous, ou dans la plupart des milieux de vie tiers-mondistes, l'on constate une certaine forme, une inadéquation, une adaptation des hiatus entre les grilles de programme de cours et les besoins de cours. Parfois, si nous devons aussi bien voir la situation chez nous de manière plus critique, l'on est parfois surpris de constater que même nos frères et compatriotes qui possèdent des diplômes universitaires et supérieurs dans des branches techniques et pratiques sont frappés par le chômage. Combien de nos compatriotes ayant fait l'IEC et les autres écoles déjà ne sont-ils pas sous chômage? Donc moi je trouve que nous devons militer pour penser à réformer les grilles de nos programmes de cours afin que les programmes de cours au niveau de nos universités, au niveau de nos établissements supérieurs aient une certaine incidence directe, des implications directes sur le vécu des citoyens. Sinon, on va former les gens qui se retrouvent là avec le diplôme, mais parfois après avoir fait un graduat, une licence dans tel domaine, ils se retrouvent là au chômage. Alors on se demande, qu'est-ce que tu veux faire?
Oui, alors,
Franck,
Oui, Franck, oui. C'est vrai, vous avez évoqué là une mission spécifique, de l'université ou encore des instituts supérieurs et universitaires. Mais voilà, une question qui me revient à l'esprit, le retard accusé aujourd'hui autour du développement de la RDC, selon certains observateurs, cela est attribué en grande partie à la défaillance des instituts supérieurs et universitaires de jouer les rôles ou la mission qui leur a été assignée. Est-ce que vous partagez cet avis?
Pas totalement. Mmh. Pas totalement. C'est comme je venais de le dire, l'université a la mission de former à travers une certaine méthodologie scientifique. L'université a la mission de veiller à cette rigueur, que l'ensemble des connaissances qu'elle est en train de véhiculer puisse être comprise et défendue. Mais ce n'est pas à l'université d'aller pouvoir des postes d'emploi. Mmh. Donc, l'université forme, mais encore faut-il que l'exécutif s'occupe de ce citoyen qui vient de finir dans tel ou tel autre cycle pour pouvoir peut-être à leur poste d'emploi. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a une certaine corrélation qui doit être de mise, l'exécutif, le ministère du Travail et la politique même de l'enseignement. Mmh. Mais tant qu'on forme les citoyens sans tenir compte des besoins locaux, tant que les citoyens vont se jeter dans les universités sans savoir ce qu'ils vont faire avec ce diplôme, je crois qu'on ne saura jamais, on ne saura jamais sortir de cette humeur. Mmh. Donc, les responsabilités sont partagées. C'est vrai que l'exécutif a sa bonne part de responsabilité, et nous devons aussi le reconnaître qu'au niveau des programmes de nos universités, on doit aussi veiller à ce que la formation ne reste pas seulement au niveau théorique et abstrait. Donc, il faut que la formation qu'on donne, que les étudiants arrivent aussi à se retrouver. Donc, moi, je dirais qu'on ajoute un peu le volet entrepreneuriat dans le programme de nos cours. Je crois que ça ira. Si voilà. On aura des licenciés dans tel domaine et des gradués dans tel domaine,
mais en réalité, sur le terrain, il y a.
Mais qui, sur le plan pratique, n'arrivent
pas à donner les meilleurs. Merci beaucoup, Franck, de votre contribution. Merci surtout d'avoir appelé de Vienne, en Autriche. Drop, vous êtes à Guéménage, je ne sais pas si j'ai massacré ce nom. Drop, vous êtes avec nous à l'Équateur. Bonjour. C'est monsieur Drop.
Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Voilà. Je voudrais dire ceci. Par rapport aux universités que nous avons, l'université, c'est une base qui doit former les gens capables à intervenir dans la société. Mais il devient difficile, nous terminons dans les universités, nous sortons avec la théorie pleine, mais la pratique, rien. C'est un élément que nous devons tenir compte. Et en plus, l'État congolais doit chercher comment absorber la main-d'œuvre que l'université va mettre en place. Mmh. Les professeurs prennent tout leur temps à faire soit des recherches, mais dans des conditions difficiles, dont ils sont aussi mal rémunérés, et dans des cadres où ils travaillent malsains. Ensuite, ces enfants-là qui sortent n'ont pas le boulot. Si les Congolais, le gouvernement congolais organisait la politique de l'emploi pour les jeunes qui terminent, vous remarquerez que ces jeunes-là amèneront des nouvelles techniques dans la société, et ça pourrait aider aussi notre communauté à aller de l'avant.
Mmh.
En outre, il faut voir aussi dans lequel contexte tous ceux qui viennent à l'université viennent chercher. Parce que tout le monde n'est pas fait pour l'université,
oui,
comme on avait dit dans une des études qui était passée ici. Certaines personnes viennent à l'université sans savoir qu'est-ce qu'il est parti faire.
Mm-hmm.
Ils viennent comme ça. Quand ils terminent, ils viennent là seulement pour vagabonder à la société. Ils ne rendent pas à la société un bon service. Donc, ils doivent les préparer chaque fois où ils vont, quand il y aura. Ils auront terminé, qu'ils trouvent quand même un travail. Et là, ils auront à mettre à l'esprit, l'esprit aussi de faire l'effort de connaître et de mettre en pratique les théories qu'ils amènent. Et c'est ce qui pourrait développer notre pays. Si nous tous, nous devons se mettre.
Voilà. Alors, Drop, quel commentaire avez-vous par rapport à la déversion de certains professeurs qui abandonnent aujourd'hui les universités, qui vont embrasser la politique? Est-ce que c'est lié à la pauvreté?
C'est la pauvreté, les mauvais traitements, la mauvaise rémunération qu'ils trouvent. Sinon, si l'État payait réellement ces secteurs-là de l'enseignement, un professeur là n'allait pas fuir. Un professeur prépare tous les cadres, en commençant par les présidents de la République jusqu'à la dernière personne qu'on pourrait considérer. mais l'enseignement est devenu un élément.
Et c'est pourquoi ils abandonnent.
C'est ce qui fait que vous voyez,
ils vont faire la politique.
Nous sommes en train de détruire les cuisines de notre pays personnellement. Celui qui termine, il ne trouve pas là, il sera consommé. Mais celui qui est parti comme professeur, nous remarquons, certains refusent même d'aller à l'UPEL. Ils disent que c'est pour devenir enseignant et être compté comme un malheureux dans la société.
Voilà.
Ils étaient dans l'UPEL.
Mais si on terminait là,
qui passe à la biologie chimique, par exemple, il n'y a pas d'industrie pour les consommer. C'est un peu un autre problème.
Voilà, il y a une attente des autres. Merci beaucoup.
Bon, peut-être la politique là,
la politique, ça paye mieux. Ils abandonnent les laboratoires. Merci beaucoup. Drop, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On va prendre Herman avant de retrouver notre invité dans ce studio. Herman, vous êtes dans le Bandundu. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment-là.
Vous avez suivi Franck Bézienne qui a parlé de responsabilités qui sont partagées et aussi Drop qui est revenu sur certains aspects, certains facteurs qui font qu'aujourd'hui on a du mal à atteindre en tout cas les sommets du développement parce que l'université ne joue pas son rôle, entre autres la pauvreté ou les conditions dans lesquelles vivent les certains professeurs qui abandonnent la crée pour aller à la politique et aussi l'université qui n'offre pas des opportunités aux jeunes qui sont venus pour trouver de l'emploi facilement. Herman, quel est votre réaction avant de retrouver notre invité.
Oui, merci, monsieur le journaliste. Le pays, premièrement, ne se développe pas par la politique, mais par la science. Mmh. Il suffit qu'on devait beaucoup plus encourager ceux qui vont dans le secteur de recherche, de leur donner des moyens possibles pour qu'ils arrivent à évoluer dans leur recherche, développer des moyens qui peuvent permettre à ce qu'on arrive à développer un pays. Mais aujourd'hui, c'est presque pas le cas. On se rend compte que on favorise beaucoup plus ce qui est pas trop important, on donne beaucoup plus d'importance, mais ce qui est important, bon, on banalise, on trouve que c'est pas important. Si un jeune aujourd'hui dans les universités, on se rend compte, si un jeune lui-même ne se donne pas la peine de faire des recherches et tout, on ne sent pas cette politique de motivation. On se rend compte que nos jeunes sont contents là qu'on arrive à leur donner de l'argent, on arrive à leur corrompre, et même ils ne se soucient pas qu'on comprenne la matière ou pas. Ça, ça n'est pas leur affaire. Cette manque de motivation là favorise aujourd'hui que le jeune, par exemple pour les travaux de fin d'études, un jeune là, il perd juste, il donne l'argent au co-directeur et tout, il fait tout, on va juste lui donner un travail qui avait déjà été fait, c'est ce que j'ai fait appeler la main et budget. Et voilà, tout ça, ça ne favorise pas le jeune de pouvoir demain espérer un avenir meilleur, qu'on doit vraiment du fond voir un peu ce problème et chercher comment on peut aller trouver des solutions pour le développement. Parce que c'est la science qui favorise le développement, c'est pas la politique. La politique ne favorise pas le développement d'une nation. Voilà mon intervention.
Merci beaucoup, Herman. 081-890-6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Nous avons le plaisir de retrouver dans ce studio Nadège Ngombe, qui est professeur à l'UNIKIN et présidente de la sous-commission scientifique de la 5e édition de la Conférence nationale des chefs d'établissement des instituts supérieurs et universitaires. Et avec nous, elle est avec nous dans ce studio. Bonjour, Madame Nadège.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi d'abord la réaction des premiers auditeurs, des premières séries. Comment vous réagissez? Parce que, disons, il y a des avis qui sont partagés. Responsabilité de l'État, responsabilité des professeurs qui abandonnent la crée. Professeur, hein, en tout cas, c'est vraiment un plaisir pour nous de recevoir une dame professeur dans ce studio. Alors, comment vous réagissez?
Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Comme vous l'avez dit, je viens donc dans le cadre de la 5e édition de la conférence des chefs d'établissement et de l'exposition des œuvres de l'esprit de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique pour la 5e édition. Alors, pour cette 5e édition, nous avons choisi d'innover. C'est qu'à part l'exposition des œuvres de l'esprit et à part la conférence des chefs d'établissement, nous allons avoir des tables rondes. Pourquoi ces tables rondes? Ces tables rondes doivent aider l'enseignement supérieur à réfléchir et à sortir des recommandations qui seront transmises auprès de décideurs, donc auprès du gouvernement, afin que nous puissions réellement participer à l'émergence de la RDC. Alors, j'ai suivi les auditeurs tantôt. Effectivement, tout ce qu'ils ont comme préoccupation, ça rencontre ce que nous avons mis dans les différentes thématiques de la table ronde que nous allons organiser lors de cette conférence. Donc, pour ne pas trop dire, je dirais que ils ont critiqué le système actuel de l'enseignement, c'est le système traditionnel. Si vous regardez de par le monde, tout le monde va vers le nouveau système qui est le système LMD. Nous sommes encore dans le système traditionnel. La loi cadre de l'enseignement national prévoit que toutes les institutions de l'enseignement supérieur puissent basculer vers le LMD. Et nous sommes dans ces processus. Comme vous savez, quand il y a un changement, il y a 0,1% qui accepte le changement.
Pour préciser, LMD, c'est oui, licence, maîtrise
et doctorat. Oui,
je vous
en prie. Oui. Donc, quand il y a un changement, il y a 0,1% de la population qui accepte, peut-être 30% qui accepte difficilement, et la grande partie est imperméable au changement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut y aller par processus, y aller progressivement pour faire accepter ces changements. Et c'est ça que nous devons faire. Nous avons appelé les chefs d'établissement pour que nous puissions réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que nous prenons autant de temps pour basculer vers ce nouveau système, en fait, qui va répondre aux préoccupations que les auditeurs ont exprimées tantôt? Et quelles sont ses préoccupations? Ils se disent qu'un étudiant est formé juste pour le plaisir d'être formé. Mais dans le nouveau système, on dit, on étudie autrement, on enseigne autrement, on gère autrement. On étudie autrement, ça veut dire quoi? On responsabilise l'étudiant. L'étudiant n'aura que les canevas du cours. Il doit faire un travail personnel intense. Il doit aller à la bibliothèque. Il doit être sur Internet. Il doit vraiment fournir des efforts pour sa propre formation. Et pour l'enseignant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enseigner autrement. Il donne les canevas, il donne les supports et il favorise ce que les
étudiants... Il évite l'extramorose.
Voilà, il évite les extramoroses que vous dites, mais s'il y a des extramoroses qui sont importants aussi pour l'université, il peut le faire. Mmh. Il est appelé pour une consultance. Vous n'allez pas refuser à un professeur de faire une consultance alors que c'est pour le besoin de la population.
Dans
le gouvernement, il peut être appelé à fournir une expertise. Oui, ils peuvent être appelés et ça, il faut retenir.
En cas d'échec, la responsabilité revient à ces professeurs qui devraient constituer l'intelligentsia du pays.
Ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je pense que quand on fait appel à un professeur, ça veut dire qu'on reconnaît son expertise. Et que quand il arrive, que ce soit au gouvernement ou dans un autre domaine, ça veut dire qu'on doit sentir un changement. Qu'il y a eu un professeur qui est passé par là et il y a un changement. Il y a un changement parce qu'il amène, il a vu qu'il y a des problèmes et il a porté une
question de curiosité
à
ce jour, depuis que l'RDC s'est engagé dans cette voie de la démocratie. Il y a beaucoup de professeurs qui ont participé quand même qui ont donné de leur expertise dans les différentes institutions du pays.
Oui.
Mais les résultats, en tout cas, je ne sais pas, selon vous. Et si c'est lui escompté?
Bon, je pense que les résultats, on doit évaluer, je pense, pas par cas. On ne doit pas globaliser. Parce que je connais qu'il y a des professeurs qui ont quitté la colline espérée, qui sont descendus pour donner leur expertise et qui ont donné des résultats. Je pense qu'il faut y aller cas par cas.
Voilà. Alors, je ne sais pas, parce que vous avez suivi les auditeurs, il y a un qui a dit le développement d'un pays passe par la science et non par la politique.
Oui, par la science, ça veut dire que science politique, c'est une science. Donc, ça veut dire que le développement d'un pays, effectivement, passe par l'université. L'université a un apport important parce que c'est l'université qui nous fournit l'expertise nécessaire. Vous êtes ici aujourd'hui avec moi dans ce beau studio de la radio Okapi. C'est parce que vous avez été formé.
Mm-hmm.
On vous a formé pour que vous puissiez venir ici. Ça veut dire que nous venons tous de quelque part. Et c'est quelque part, c'est l'université qui nous forme. Donc, même les politiciens, ils sont formés à l'université. Science politique. Et maintenant, on voit comment est-ce qu'ils doivent appliquer ça. Comment est-ce qu'ils rendent ce qu'ils ont appris à l'université. Donc, je reviens un peu à ce que je disais tantôt avec le nouveau système que nous voulons suivre.
Que nous voulons appliquer.
Oui. Donc, ça veut dire que nous, il y a ce souci-là de mettre l'étudiant au centre de la formation, mais aussi d'y inclure la professionnalisation. Nous avions formé, par exemple, les journalistes pour les besoins de les former. Nous avons formé les médecins pour les besoins de les former. Mais la véritable question, c'est celle de savoir le Congo a besoin de quel type de médecin. Si nous répondons à cette question, nous allons former des médecins en ajoutant ces plus-là pour qu'ils puissent bien travailler en RDC. Donc, ça revient à dire que nous devons définir des référentiels de compétences pour chaque métier ici en République démocratique du Congo et nous devons avoir des référentiels de métier. Un journaliste qui doit travailler en RDC est légèrement différent de celui qui va travailler dans un autre pays par rapport au contexte. C'est pareil pour un médecin. Ici, nous avons encore la mortalité infantile qui est plus ou moins prononcée. Ça veut dire que nous devons former, par exemple, les infirmières et les médecins à prendre en compte le fait qu'il faut faire tout pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Si plusieurs mamans doivent mourir quand elles accouchent, nous devons lutter contre ça. Ça veut dire que nous devons ajouter un plus à la formation de ces sages-femmes et ces médecins. Donc, c'est ça l'esprit de ce nouveau
lettre de cette
fréquente
édition
oui.
De la conférence nationale des chefs d'établissement.
Oui.
Voilà, donc je pense qu'on va, on va revenir encore sur ça, les temps de repasser à nouveau de l'autre côté du standard pour recueillir encore le point de vue des uns et des autres, parce que c'est un débat. La thématique, c'est quel est l'apport de l'université, en tout cas les recherches scientifiques, aujourd'hui, c'est vrai, en marge de cette cinquième édition de la conférence nationale des chefs d'établissement qui sera organisée du 11
au 15.
Je crois que nous avons déjà une idée sur les objectifs poursuivis par cette cinquième édition. Mais réaction de l'autre côté du standard, 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Votre connexion internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. RadioOkapi.net à votre service.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Josué Jolac, Kaleka de Kadanga, a rejoint pratiquement les avis avancés par notre invité tout à l'heure. Il dit les universités et les supérieures ne peuvent contribuer au développement de la RDC qu'en assurant fidèlement et correctement leur rôle qui est celui de donner un enseignement adapté aux exigences nouvelles. Richard, vous êtes à Kinshasa. Gracier, vous êtes à Butembo. Richard, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, Dr. Richard.
Comme elle a commencé à parler du médecin aussi.
Et vous, vous êtes docteur, oui.
Former médecin. Quel médecin pour résoudre le problème du Congo, c'est aussi savoir définir, parce qu'on parle de l'université du développement, qu'est-ce que le développement. Je crois qu'on peut aller facilement en opposant le développement à l'enveloppement. Quelles sont les enveloppes qui nous empêchent d'avoir une mentalité comme ça? Je crois que ce n'est pas seulement la formation. C'est ça. C'est un tas de matières qui ne sont pas données aujourd'hui à la faculté, même si on convertissait dans les systèmes
LLD.
Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est savoir nos enveloppes et que moi j'appelle le menton ou les manteaux qui empêchent le décollage et le bonheur du Congolais et apporter des solutions. Je donne deux petits exemples. Pour le petit déjeuner, je suis souvent déçu moi-même médecin d'entendre ce que les médecins disent sur le petit déjeuner. Ils sont restés, nous sommes restés archaïques avec le petit déjeuner qui donne la main. Pour le petit dîner, vous imaginez un peu, on a apporté nous, les intellectuels, à 500 km de Mbujima et le pain, alors que les ignames sont là. Les tarots sont là, par exemple. Vous savez aussi que pour notre petite médecine, quand on parle du brossage des dents, tout le monde voit les plastiques. Mais moi, je sais que les plastiques érodent les dents, favorisent la carie dentaire. Moi, je fais la promotion d'un kékéné. Je suis insulté comme environnementaliste. Voilà quelle médecine on
veut demain. Oui, docteur Richard. Docteur Richard, est-ce que le professeur aujourd'hui, qui constituait les laboratoires pour aider le pays à aller de l'avant, ont vraiment leur tête à ça?
Qu'ils cessent de faire la copie conforme. La situation de l'Europe n'est pas la situation, par exemple, de RDC. Vous avez des gens en plastique. Or, leur solution en Europe, il y a des prothésistes pour la destruction de dents. Et ici, chez nous, ça peut coûter combien? Il faut qu'ils savent être des copies conformes, de singer les autres, qui regardent les riches, qui les mettent en valeur. La parole du Congolais, c'est le bonheur du Congolais. Qui est ce professeur qui peut me dire qu'il est professeur? Quand il choque les ignames, il ne met pas du pain avec le thé. Vous savez que le thé est dans l'hypertension. Le thé est dans les tachycardies, ils ont perdu beaucoup d'amis.
Voilà, revenons pour la compréhension.
J'ai une minute.
Oui, Richard, j'ai compris.
C'est une chimie ignorée par les médecins. J'ai vu des.
Oui, docteur Richard, on a compris. Permettez-nous quand même de vous poser des questions de relance.
Avec les médicaments. Voyez un peu ça.
Oui, docteur Richard, est-ce que vous nous permettez de vous poser des questions de relance? Comme ça, on peut éclairer la lanterne de tous, parce que il y a tous ceux qui nous suivent, ne sont pas médecins. Voilà, donc quand nous parlons université développement, aujourd'hui, encore vos propos, c'est comme si c'est vraiment impossible qu'on arrive, en tout cas, à cette corrélation université développement, parce que les professeurs n'ont pas leur tête à ça.
Permettez ?
J'ai dit aujourd'hui, encore vos propos, c'est comme si c'est, on n'arriverait pas à cette corrélation entre université et développement, parce que les professeurs n'ont pas leur tête à ça, pour arriver réellement à transformer la société.
Mais justement, ils réfléchissent en Belge pour résoudre le problème du Congo. Ils réfléchissent en Américain pour résoudre le problème du Congo. C'est pas normal. Ils réfléchissent en Italien, etc. Ils réfléchissent en territoire congolais de haut niveau pour résoudre le problème du Congo avec les ressources du Congo. Vous savez que parce qu'on a parlé de la médecine, la paramédecine n'est pas développée. Avez-vous déjà entendu les médecins congolais venir avec les balayeurs, les fabricants des balais, les menuisiers par exemple. Vous savez qu'il y a des banques qui ont détruit les colonnes vertébrales de beaucoup de Congolais que les chirurgiens, les noirs chirurgiens,
voilà.
Voilà.
Vous avez.
Les tables, les banques ont détruit les Congolais.
Tout à fait.
Il faut quelle médecine.
Voilà, nous avons, docteur Richard Rodet, on sait que, disons aujourd'hui, la RDC, c'est un secret pour personne, égorge pas mal de potentialités et dans tous les secteurs de la vie. En tout cas, il suffit seulement, comme le dit certaines personnes, la mutualisation de tous ces secteurs, c'est-à-dire mettre ensemble une synergie pour amener à bon port les actions, c'est-à-dire aujourd'hui, s'il faut compter combien d'universités que nous avons qui forment les agronomes, c'est vrai que nous parlons de l'agriculture priorité des priorités pour amener au développement donné à manger à tout le monde, mais combien d'universités que nous proposons, combien d'études supérieures que nous proposons d'agriculture. Voilà, ça c'est une question pour ne pas nous éterniser sur la médecine. Merci beaucoup, Dr. Richard, d'avoir appelé, surtout d'avoir contribué dans ce débat, dans cette thématique liée à l'université et développement. Gracien, vous êtes à Boutembo. Bonjour.
Bonjour, moi c'est Mourouvan Intention, je vous appelle depuis la ville de Boutembo, au Nord-Kivu.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Oui, par rapport au sujet du jour, moi je vais poser peut-être une question.
Oui, avant de poser...
Comment le secteur va contribuer au développement du pays?
Oui,
moi je peux dire que comment le secteur abandonné peut contribuer au développement du pays? C'est ça ma question que je
voilà, alors,
vais être analysée par vous.
Oui, parce que...
Mais
vous...
aussi,
oui,
l'État doit prendre la charge de ce secteur. L'État doit prendre la charge de ce secteur. Puisque quand l'État abandonne tout comme ça... le secteur est abandonné, les gens se réjouissent à avoir des diplômes de graduat, des diplômes de licence, ils quittent l'école, les universités, ils quittent les institutions supérieures. Donc, ils ne sont pas liés dans la société. Ils ne sont pas liés dans la société. Et à cause de ça, à cause d'abandonner le secteur, surtout, il y a la corruption. Il y a la corruption. Nous, étudiants, nous corrompons souvent les professeurs
des assistants.
À cause il y a aussi l'immoralité l'université.
Donc il y a plusieurs mots qui gagnent aujourd'hui le secteur.
C'est assez comparable à l'immoralité et l'université. À la vue de tout le monde, les professeurs, au lieu d'enseigner la matière, mais vous verrez un professeur qui va appeler ici, non, venez chez moi, vous allez me rejoindre chez moi, je vais vous donner l'examen.
Voilà, par contre, nous avons posé la question sur le point
de ce sexe comme ça, à cause de la corruption, nous allons retirer, nous aurons même des diplômes de licence, des diplômes de graduat, nous allons sortir des universités et des études supérieures sans avoir quelque chose à tête. Nous n'allons pas travailler pour le pays. Moi, c'est ce que je peux dire.
Merci. Merci beaucoup, Gracien, d'avoir appelé de Boutembo. C'est vrai, vous avez évoqué quand même beaucoup de problèmes, de mots surtout qui gagnent l'université et qui constituent également un frein au développement. Nous allons prendre Daniel qui est à Lubumbashi. Daniel, bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Kapi.
Bonjour, Pierre, et bonjour à tous les amis de cette émission. Parole au député.
Voilà, vous avez la parole. Votre point de vue.
Merci, Pierre, pour la parole. Pierre, c'est très, très intéressant. Je dirais que l'université congolaise est dans une routine improductive qui ne contribue pas au développement de notre pays. Pierre, comment voulez-vous, dans nos différentes facultés, les travaux que les étudiants sont en train de présenter sont des plagiat pour la plupart? Des photocopies, ne pas que des photocopies en photocopie. Et cela ne permet pas une bonne avancement de l'université au Congo. C'est moi qui vous parle, je suis pharmacien de formation. J'ai eu à présenter mon mémoire de fin d'études. J'ai eu à travailler sur le plan médicinal. avec les extensions qu'on a pu utiliser, on a démontré à partir des extractions, des plantes médicinales que nous avons dans notre pays, on peut aboutir à la production de quelques médicaments. Mais par rapport à cette extension, pour concrétiser ce que je puisse faire dans mon travail, il faut des moyens. D'où viendra ce moyen? Moi, en tant que individu, je ne le sais pas.
Mais voilà, Daniel, alors, Daniel c'est, une occasion, oui, c'est une occasion parce qu'on organise la 5e édition, la 5e édition nationale, la conférence nationale des chefs d'établissement, des instituts supérieurs et universitaires, ainsi que l'exposition des œuvres de l'esprit de ce secteur. Vous, vous êtes quand même un inventeur, vous pouvez quand même solliciter aussi l'exposition. Mais c'est vrai, il y a pas mal de questions qui viennent après. Qu'est-ce qu'on on fait de cette exposition après? Donc, on va poser la question à notre invité. Est-ce que vous avez déjà sollicité, de participer à ce genre d'exposition?
Nous, nous n'avons pas cette occasion. Et le mal, c'est que ce sont des choses que nous suivons au travers des médias, comme vous venez de le parler. Mais concrètement, comment accéder à ce genre de
colloques que
nous suivons au travers des médias? Mais comment entrer en contact et faire valoir ce que nous sommes
capables de
faire? Parce que ça demande des moyens.
Voilà, merci beaucoup.
Ça demande des moyens et ça peut amener au développement. Mais tant que nous faisons ces recherches-là, avec le maigre moyen que nous avions pour faire nos recherches et qu'on n'a pas de soutien, ce sont des travaux qui vont rester dans les tiroirs des facultés et pour rien.
Voilà.
Et qui
voilà, merci.
Congolaise est mal cotée.
Merci beaucoup, Daniel, d'avoir appelé de Lubumbashi, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Madame Nadej Ngombe Kabamba, vous êtes professeure à l'UNIKIN, présidente de la sous-commission scientifique de la Conférence nationale des chefs d'établissement des instituts supérieurs et universitaires, ainsi que l'exposition des œuvres de l'esprit de ce secteur qui s'éteindra d'ailleurs du 11 au 15 octobre prochain. Voilà, vous avez suivi cette deuxième série, voilà, ça tire dans tous les sens, hein. Comment vous réagissez?
Ok, je vais dire que nos auditeurs disent la même chose que nous. Les secteurs de l'enseignement supérieur s'est réuni en février 2014 à Zongo pour analyser la situation de ce secteur et il en est sorti des recommandations coulées sous forme de feuilles de route pour le redressement du sous-secteur enseignement supérieur. Alors les chefs d'établissement qui vont se réunir en conférence, ils auront entre autres comme tâche de voir dans quelle mesure appliquer cette feuille de route qui va nous amener au changement. Nous déplorons tout ce qu'il y a. Ceci ne va pas, cela. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à critiquer ou bien à constater que quelque chose ne va pas. Nous devons nous lever comme un seul homme pour décider à ce que cela change. Et l'enseignement supérieur a décidé que cela change. Et pour que ça change, il faut que des activités soient menées, que des recommandations puissent sortir et que nous puissions les appliquer. C'est ça que les chefs d'établissement vont faire. Il y a des cas de tricherie, tout ce qu'on a dit, mais il faut que ça change. Pour que ça change, il faut une feuille de route. Donc, dans le cadre de cette 5e édition donc de la conférence des chefs d'établissement, nous allons réfléchir et mettre en exécution, appliquer cette feuille de route.
Mais on est à la 5e édition.
Oui.
Après avoir passé première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième aujourd'hui, mais quel est le résultat?
Ben justement, si vous regardez aussi l'évolution du monde, il y a eu plusieurs tentatives de par le monde pour qu'une situation change. Mais il y a toujours un événement qui fait que l'édition qui suit soit la bonne, soit celle-là qu'il faut pour faire décoller les choses. Il y a toujours des essais et des erreurs, mais cette fois-ci, nous avons innové en disant que cette fois-ci, ce qui sera pris comme résolution, ce que nous allons adapter, les chefs d'établissement auront le devoir de commencer à appliquer. Ils vont définir par eux-mêmes une tâche de suivi et évaluation. Ils doivent suivre et ils doivent évaluer après 3 mois, après 6 mois, après une année, est-ce que réellement ils ont appliqué ce que nous nous sommes dit.
Les recommandations qui vont sortir de cette conférence ne seront-elles pas en adéquation avec les dispositions de la loi cadre de l'enseignement révisé, comme vous l'avez dit, révisé et corrigé en février 2014.
Non, pas du tout, parce que ce que nous allons décider, c'est juste comment est-ce que nous allons appliquer ce qui vient de la loi cadre de l'enseignement supérieur. C'est la loi cadre qui nous demande à ce que nous puissions nous arrimer aux standards internationaux de l'enseignement, que nous puissions enseigner comme ça se fait partout ailleurs, mais en tenant compte de nos particularités, en tenant compte des réalités congolaises. Je crois le médecin qui a parlé de
Dr. Richard.
Dr. Richard qui a parlé à partir de l'Est de la République, que je salue, a fait mention des particularités que nous avons ici. Nous en tenons compte. Le nouveau système tient compte des réalités du pays. Ce n'est pas par hasard que j'ai pris l'exemple des médecins et de la réduction de la mortalité maternelle. C'est vrai, on peut dire que les Chinois font ceci pour réduire la mortalité maternelle, les Français, mais chez nous, nous avons nos propres réalités. Là où il est ici, c'est au fin fond d'un village qui travaille. Il a ses propres réalités. Il doit, en principe, nous faisons appel à ceux-là qui sont sur le terrain, aux médecins qui sont sur le terrain, pour qu'ils disent, pour qu'ils nous donnent ce qu'ils ont comme problème. Et c'est ensemble avec eux que nous allons concevoir ce nouveau curriculum de formation. Donc, cette fois-ci, nous tenons compte de ceux qui sont sur le terrain pour définir les véritables compétences que nous attendons de chaque secteur, de chaque métier. Donc, nous allons tenir compte de tout ce qui se fait à l'extérieur. Il a encore dit que, par exemple, on ne tient pas compte de la médecine traditionnelle. Mais ça, c'est pas vrai. Peut-être qu'il n'a pas l'information. Nous avons, au niveau du ministère de la Santé, tout un programme national de la médecine traditionnelle. Vous allez voir, déjà ici à Kinshasa, il y a des hôpitaux qui prennent en compte ce que les traduits praticiens disent pour soigner. Nous voulons aller vers un système de santé où on va offrir à chaque population qu'il ait un choix. Est-ce qu'il va être soigné par la médecine traditionnelle ou il va être soigné par le système, qu'on va dire, les systèmes actuels, modernes? Nous voulons arriver à ça, mais c'est tout un processus. Le Congolais pense qu'il suffit de se lever un matin et de dire que ça ne va pas et ça va changer du coup. Mais non, c'est un processus. Je vais donner l'exemple de la bancarisation. Nous avons boudé tout là au début, mais maintenant tout le monde est content d'avoir un chéquier, tout le monde est content d'avoir une carte bancaire, tout le monde est content d'épargner un peu à partir de ce système bancaire.
Oui, il y a encore un débat autour de
bien
tout
sûr,
ça.
Bien sûr, il y a débat autour de ça, mais il faut toujours démarrer quelque part. Il faut accepter de commencer dans la douleur, parce que que nous allons récolter sera bon. Nous allons arriver à changer
ce système éducatif. Quelles viennent les œuvres d'esprit exposées?
Oui, les œuvres de l'esprit, le premier processus, c'est que nous faisons en premier, nous envoyons ceux qui ont des œuvres innovantes à se faire enregistrer pour protéger ces œuvres. Et par après, il y a une direction au niveau de la recherche scientifique qui s'occupe notamment d'enregistrer, de donner des informations sur la possibilité que ces œuvres ou bien que ces inventeurs soient appuyés. C'est vrai, jusque-là, on le décrit et nous sommes en train de lutter pour que la recherche scientifique, le ministère de l'Enseignement supérieur et recherche scientifique puisse avoir quand même une part assez acceptable dans le budget national. Nous continuons à nous battre
comme tout le monde. Et de professeurs.
Voilà, pas seulement pour les professeurs.
Demande à ce que la part allouée soit quand même significative.
Oui, pour permettre à ce que nous puissions réaliser, amener au bout les travaux de recherche que les professeurs, que les chercheurs, même indépendants, sont en train d'entreprendre. Donc, il y a cet aspect-là. Ils sont enregistrés, mais c'est les moyens qui manquent. Les moyens, si on met à la disposition suffisamment de moyens, je pense que nous avons des
gènes. Qui va mettre les moyens?
Nous appelons les pouvoirs publics que les budgets allouer le montant alloué à l'enseignement supérieur puisse quand même être revu à la hausse. Et c'est vrai, on va se dire que l'enseignement supérieur, à travers des projets, nous pouvons travailler, nous pouvons arriver à quelque chose, c'est vrai, mais nous faisons un partenariat avec d'autres institutions parce qu'il faut bien le faire, mais nous voulons aussi que le gouvernement congolais, à part entière, puisse prendre en charge aussi ce secteur. Parce que c'est, je dirais même plus, je peux aller plus loin en disant que la recherche fait avancer un pays, la recherche doit être un domaine de souveraineté. Parce que nous pouvons découvrir des choses qui vont aider à la sûreté de la nation. Mais pour ça, ça veut dire que c'est les gouvernements qui doivent appuyer.
Voilà, j'imagine peut-être ce qui passe par la Gombe, du côté du bâtiment, de la recherche scientifique. On voit dans quel état se trouve ce bâtiment. Mais bon, on va quand même encourager les professeurs à pouvoir faire des recherches hein, malgré cet état des choses. Voilà, 081-890-63-15.
Okapi danse, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Okapi danse, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Gérard, vous êtes à Bounia, Arsène Akikwit, Papi à Kinshasa. Gérard, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs, oui. Gérard. Quel est votre point de vue?
Ça va. Je peux intervenir de la vie.
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, Gérard. Vous sortez entrecoupé et je crois que on va demander à la réalisation de pouvoir nous aider. Si jamais la communication s'améliorait, on pourrait encore revenir à vous. Les temps au dépôt d'Arsène qui est à Kikwit. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R.
Vous avez la parole, Arsène.
Merci beaucoup. Je suis un prédécesseur. Je suis le professeur. Je vais commencer par la conclusion du professeur. Elle a dit, écoutez, il faut des moyens. Alors là, je dirais, depuis combien de temps on a commencé à réformer l'enseignement supérieur et universitaire au Congo? Quel en est le résultat? Aujourd'hui, on recommence encore, on change le système. Ok, c'est pas mal, c'est bien, nous devons évoluer. Mais alors, je crois que l'université, ce n'est pas un lieu à vendre des diplômes. C'est un milieu scientifique. Qui dit milieu scientifique dit la justesse et la précision. Nous allons former qui et pourquoi. Aujourd'hui, on a l'impression comme si l'université c'était une cachette pour juste chercher un diplôme et avoir de la valeur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, qui est l'universitaire? Moi, quand j'étais jeune, quand je voyais un universitaire avec un chapeau plein de mayaka, je me disais, un beau jour, je peux devenir comme ce monsieur. Mais quelle est maintenant l'envie d'un jeune homme d'aujourd'hui qui regarde l'universitaire qui est en train de marcher des kilomètres ou chercher le transport ou monter dans un bus? Et les conditions qui se trouvent dans nos universités. Donc, d'une part, l'université ne donne pas le goût à la jeunesse. Ça, il faut l'accepter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'universitaire puisse avoir d'abord son prestige et en plus du prestige, sa connaissance adéquate? Nous devons faire un effort. Regardons maintenant, le professeur vient de le dire, il faut regarder du côté du pouvoir public. Qui sont là-bas en train de diriger ce pouvoir public? Ce sont des professeurs, ce sont des universitaires. Et que dirait mon grand-père qui est au village pour dire, ben, yo, quel est l'université, qu'est-ce que tu fais pour ce pays? Voilà, il y a plusieurs questions à se poser, mais moi, en fait, je dirais, faisons un effort, ayons l'amour de la patrie. Ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont en train de diriger, faire des projets, des concepts politiques, ce sont des universitaires. Des fois, ils se font ridiculiser pour des petites histoires. Il faut que l'universitaire, d'abord, commence à faire preuve de ses compétences, de ses qualités, de ses honneurs. Et à partir de là, je crois que nous pouvons donner le courage à la jeunesse pour aller à l'université et avoir ce prestige d'universitaire. Et on appellera le Congo un pays universitaire. Si on n'appelle pas le Congo un pays universitaire, ça veut dire que nous sommes encore au niveau de l'école primaire, nous devons nous battre. Je fais un appel à ceux qui sont chargés de l'affaire publique de penser à l'éducation, à l'enseignement et à l'instruction. Ils sont là-bas parce qu'ils ont été instruits. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas briser ceux qui viennent après eux. Tu vois un peu ce que les professeurs venaient de le dire. Ils font des plans, ils font des projets, il y a tout ce qu'ils font là. Mais la conclusion, c'est le pouvoir public, le budget. Combien est consacré pour l'enseignement supérieur. Et là, nous allons dire bravo.
C'est bon, ça fait un peu dans l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Qui dirait aujourd'hui, nous allons, en tout cas, nous sommes en marche vers un pays Congo émergent. Pour certains observateurs, cela passe par, en tout cas, l'amélioration des conditions de travail du secteur universitaire. Papy Kassema, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Papy. Papy, vous êtes avec nous? C'est Papy? Ben voilà, alors on va profiter pour lire quelques messages. Il y a Gondje Socrate qui dit « Merci pour la question. J'estime que l'RDC ne résout jamais les problèmes au pays, presque dans tous les domaines. Vous nous demandez de parler comment ce programme peut aider notre pays à travers l'éducation. Notre pays a encore un problème très sérieux de l'emploi, car même ceux qui sont surtout embauchés par l'État ne sont pas bien payés pour dire ils cherchent à se ravitailler. Bon, je ne sais pas, j'ai bien fait de découvrir ce message. On n'a pas eu le temps réellement de réécrire. Et aussi, comment changer les choses avec le même personne sans suivi ou pénalité. Moi, je pense que le pays doit d'abord être sérieux et les responsables doivent être compétents. Voilà, donc c'est difficile de lire ces messages. Vani, ce secteur pourrait contribuer efficacement au développement de ce pays si et seulement si les enseignants à l'université et même à l'école secondaire actualisaient leurs matières chaque année et n'ont pas donné ce que nous, nos grands-parents, ont aussi étudié, car la science évolue. Mis à part ça, il serait mieux que les cours vus soient à l'université, soit à l'école secondaire, soit vraiment des réponses à des questions qui se posent dans la société congolaise. Alors, je ne sais pas si Papy est à nouveau en ligne. Papy, vous êtes avec nous? Papy est en ligne? Non, bien, on prend Gérard. Gérard, vous êtes à Bounia. Bonjour, Gérard.
Oui, bonjour.
Voilà, ça ne va toujours pas avec votre ligne, Gérard. On ne peut pas vous garder le plus longtemps possible sur les ondes des radios Capri avec cette mauvaise qualité des communications. C'est l'équipe partie remise 081-890-6315.
Au Capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, graffiti d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidance, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Voilà, nous sommes avec vous dans ce studio, Madame Nadège Ngombe Kabamba. Vous êtes professeure à l'UNIKIN et présidente de la sous-commission scientifique de la Conférence nationale des chefs d'établissement et des instituts supérieurs et universitaires, ainsi que l'exposition des œuvres de l'esprit de ce secteur. Voilà, donc il y a cette conférence qui va se tenir du 11 au 15 octobre prochain. Si vous pouvez nous rappeler encore les objectifs, parce que c'est vrai, ben, les auditeurs sont revenus et en présentant à nouveau l'état des lieux de ce secteur. Et réellement, ils ont posé des problèmes parce que c'est un problème de budget. Qu'on le veuille ou pas, vous pouvez beau organiser ce genre de conférences, mais au finish, c'est l'argent, ce sont des moyens hein, qui déterminent la fin des choses. Si le budget ou la part allouée à ce secteur ne trouve pas ou ne rencontre pas l'assentiment, je crois que le résultat ne sera pas celui escompté.
Ok, merci beaucoup. J'ai suivi les auditeurs. Effectivement, comme on dit, on finit sur le budget. Mais je pense que la tenue de ces genres de forats permet à ce que le secteur enseignement supérieur puisse se faire entendre. Il y a toujours des canaux qui sont utilisés pour que les gouvernements soient attentifs, soient appelés à écouter ce qui se passe dans un ou dans un autre secteur. Donc, nous pensons que cette conférence, cette cinquième édition de la conférence des chefs d'établissement et de l'exposition des œuvres de l'esprit, va permettre à ce que, encore une fois de plus, que le gouvernement puisse être attentif à ce secteur. Parce que si nous avons un gouvernement, si nous avons autant d'expertise, autant de professionnels au niveau de la RDC, c'est tout simplement parce que l'enseignement supérieur universitaire existe et a formé. Nous avons formé, c'est vrai, mais maintenant nous devons regarder ce que nous avons formé, qu'est-ce qu'il y a comme problème dans le secteur,
et qu'il répond réellement aux besoins. Mais la question revient toujours, quel type d'homme qu'on a formé?
Justement, c'est la question que nous nous posons, nous tous, est-ce qu'il répond réellement aux besoins de la société? La réponse qu'on peut, est là, on peut dire oui, mais il faut améliorer. Ça veut dire nous devons changer de système éducatif. C'est ça que nous proposons. Nous devons aller quitter le système traditionnel et aller vers ce nouveau système. Le monde entier s'est rendu compte qu'à un certain moment, tous les pays ont été bloqués, tout simplement parce qu'on a formé, mais cette formation ne répondait pas aux besoins de la société, aux besoins de chaque métier. Ils se sont dit qu'il fallait changer et ils sont en train de changer. Il y en a qui ont déjà changé et vous voyez les performances des autres pays. Alors, si la RDC doit être appelée pays émergent d'ici l'horizon 2030, nous devons changer. Nous devons accepter de prendre ces décisions-là impopulaires, mais qui feront que d'ici 2030, nous serons réellement un pays émergent.
Mais il est vrai qu'en quoi ce jour, nous vivons quand même une certaine réalité, et c'est un constat fait par certains observateurs. Aujourd'hui, nous vivons la science, en tout cas sans conscience.
dire que nous vivons la science sans conscience, on dirait peut-être que nous avons la science, mais il y a une certaine léthargie. Moi, je dirais ceci, l'enseignement supérieur est à la croisée de chemin. Nous sommes appelés à évoluer, à accepter ces changements, à nous arrimer aux standards internationaux, sinon nous allons continuer à rester dans la léthargie. C'est un choix à faire. Et je pense que le bon choix, c'est d'accepter de changer, d'accepter de rejoindre les standards internationaux.
Madame Immaculée est à Boutembo, grâce à Camilla. Madame Immaculée, bonjour.
Bonjour monsieur. Bon, je suis intéressée par les sujets, je suis à Béni. Je félicite madame qui est au plateau, parce que c'est rare de trouver des dames qui interviennent dans des émissions comme invitées. Alors, madame, je l'ai suivie depuis le début, elle nous parlait que le nouveau système se considérera à étudier autrement, à enseigner autrement. À cela, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que le système LMD va nous apporter concrètement, parce que les LMD, on va quitter le système traditionnel, mais la matière ou les matières, si je peux le dire ainsi, vont rester les mêmes. Et aussi, je voudrais savoir, depuis qu'ils ont commencé à tenir des éditions, des forums, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué? Parce que quand il y a des éditions antérieures, pour passer à la cinquième édition, donc il faut évaluer l'édition, la quatrième édition ou les éditions antérieures, pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, à cela, je voudrais qu'elle puisse nous éclaircir un peu. Mais sinon, aussi, je voulais dire ceci. Il faut aussi que je voie comment créer les universités ou les études supérieures. Parce qu'aujourd'hui, avec cette monnaie courante ici de création, c'est devenu du commerce de n'importe quoi. On crée des universités, des études supérieures, ça pour savoir pourquoi on les crée. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle a pas de tout ce que je vais dénoter.
Merci beaucoup, madame Immaculée. Gracia, vous êtes à Camina. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
Voilà, Gracia, voilà, si vous avez un poste récepteur tout autour de vous, prière de l'éteindre, comme ça on va se coûter par téléphone, Gracia. Vous avez la parole.
Ok, moi, je voudrais intervenir en ces termes. Donc, pour que l'université participe au développement du groupe, son objectif, c'est des forums.
Voilà, je disais tantôt, Gracia, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur? Voilà, clairement, on me signale qu'il y a un problème sérieux avec son téléphone, et c'est pourquoi il y a ces genres de bruit que nous entendons. Voilà, donc on va prendre Landry qui est à Lubashi. Landry, on reste toujours en Katanga. Landry, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur J.R.
Vous avez la parole, Landry.
Oui, monsieur, je remercie d'abord la dame qui est sur votre plateau. Je pose d'abord une question. Est-ce que dans un pays, il peut y avoir deux systèmes d'éducation? Si oui, c'est médic, sinon pourquoi? Moi, je suis à Lubashi, je suis étudiant à la faculté de la polytechnique. Parce que moi, on a introduit le système LMD. Imaginez-vous, dis-nous, c'est expérimenté sur des étudiants qui seront demain le cadre aux universités, les ingénieurs civils. Imaginez-vous, en fait. Le pays, on dit, c'est un pays émergent déjà, parce que là, avec les étudiants MLD, vous expérimentez sur les têtes, sur le cerveau des gens. Et si ça rate, ils seront ces gens-là, c'est un PD. De trois, je pose la question. Quel est le budget alloué pour l'éducation du Congo? Et de trois, de quatre, le LMD demande des moyens énormes. Et on n'a pas ni Internet sur place, ni des bibliothèques, pas pour des professeurs ordinaires, il y a trop des émissions de travaux. Mais imaginez-vous, on forme qui et pourquoi et quel pays? C'est comme si on formait des expatriés pour les envoyer à l'arrière. Je ne sais pas.
Voilà, donc vous émettez quelques inquiétudes par rapport à ce changement qu'on attend, en tout cas que souhaite le certain professeur, et surtout ceux qui organisent les différentes éditions de la conférence nationale des chefs d'établissement. Merci beaucoup, hein, parce qu'il s'agit là d'une question quand même directe. Madame, comment vous répondez à cette préoccupation directe?
Ok, je lui dis d'abord merci. Hein. Je vais répondre à ces préoccupations parce qu'elles sont vraiment pertinentes. Que d'abord, le LMD, c'est un processus. Comme je l'ai dit tantôt, nous n'allons pas nous réveiller un matin et nous disons, voilà les LMD en application. C'est un processus et ça demande beaucoup de prérequis. Si on a pris la faculté polytechnique de Lubumbashi pour commencer en leur disant que c'est expérimental, mais ce n'est pas expérimental comme il l'entend en disant que c'est un vaccin qu'on essaie directement sur l'homme, par exemple. Non. on a introduit ce système, on les fait progressivement. Donc, on commence en première année, ainsi de suite, en train d'échanger. Je pense qu'il est suffisamment avancé dans sa formation pour nous dire qu'effectivement, on a commencé à un certain niveau. On a changé la façon de donner cours, on a changé la façon de leur donner des travaux à faire. Il va voir que c'est différent par rapport au système traditionnel. Donc, on ne va pas dire qu'il y a deux systèmes éducatifs. Nous sommes en train d'aller nous arrimer. C'est pourquoi nous utilisons le terme arrimage. Nous le faisons progressivement. Nous commençons par la faculté polytechnique, mais ce n'est pas la seule faculté. Nous sommes en train de former des ingénieurs forestiers à travers une stratégie qu'on appelle la stratégie 2020. Donc, c'est aussi, on va dire, c'est une expérimentation. Nous avons commencé à décoller pour que nous puissions effectivement appliquer ce système. Donc, qu'il puisse être sans crainte. Il sera formé, il est parmi les pionniers du système LMD que nous allons instaurer ici en République démocratique du Congo. Et qu'il ne puisse pas dire que ça ne va pas marcher, ça va marcher. Parce qu'il y a un suivi, il y a une évaluation qui s'est faite dès le début jusqu'à la fin de leur formation. Oui.
Voilà, donc je sais que le système de LMD, nous avons suivi l'actualité, on a interdit à certaines universités d'organiser les doctorats. Voilà, donc c'est vraiment sélectif hein, pour organiser ces systèmes. Là encore, c'est quand même un frein. Pourquoi ne pas, comme on a déjà libéralisé les secteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a un auditeur qui a évoqué les cas des universités qui sont créées, en tout cas à longueur de journée, qui naissent à longueur de journée, comme des champignons. Alors, pourquoi ne pas laisser aussi, mais qui est quand même un suivi, hein, parce que c'est ça ce qui manque quand même à différents secteurs du pays, les suivis, les mécanismes de suivi. Mais on va d'abord accorder la parole à Gracia avant de revenir à vous, à madame. Gracia, vous êtes à Kamina, merci d'être à nouveau en ligne. Bonjour Gracia. Voilà, désolé, Gracia. N'est-ce pas en ligne, voilà, donc je reviens.
Oui, ok, oui, pour le cas de la pullulation des universités, effectivement, c'est un réel problème. Vous vous souviendrez qu'il y a, je pense, 3 ou 4 ans de cela, il y a eu une enquête de viabilité qui a fait qu'on puisse procéder à la fermeture de nombreuses institutions. Mais qu'est-ce qu'on a constaté par après? Ces institutions qui ont été fermées par telle ou telle autre influence ont été réouvertes. Ça veut dire que cette fois-ci, avec le forum de Zongo, il a été décidé que l'enquête de viabilité sera reprise. Et si vous ne répondez pas aux critères, vous ne répondez pas au nombre, on ferme. On ferme. Entre autres, les chefs d'établissement doivent réfléchir sur cet aspect-là. Et le gouvernement est appelé également à faire en sorte que les décisions qui seront prises puissent rester telles qu'elles ont été prises.
Voilà, on va rappeler quand même le sujet à tous les auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre. Merci encore de votre fidélité. Quelle est l'incidence du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique sur le développement de la RDC? Parce que nous sommes en marche vers la RDC émergente, donc un pays émergent. Alors la question sera abordée à la 5e édition de la conférence nationale des chefs d'établissement des instituts supérieurs et universitaires, ainsi que l'exposition des œuvres de l'esprit de ce secteur. La question principale, selon vous, comment ce secteur peut-il contribuer efficacement au développement de la RDC? Parole aux auditeurs, avec vous, chers auditeurs, et nous vous rappelons nos numéros de contact, le 081-890-6315 ou encore le 081-890-4969. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Quelle est l'incidence du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique sur le développement de la RDC? Nous en parlons donc. Cette question sera abordée à la 5e édition de la conférence des chefs d'établissement des instituts supérieure et universitaire, là où on organisera également l'exposition des œuvres de l'esprit de ce secteur. Voilà. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Olivier.
Bonjour, les journalistes. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Olivier, vous avez suivi certainement vos prédécesseurs. Vous avez également votre point de vue. C'est lesquels?
Voilà. Moi, je vais commencer à dire ceci. Je pense que j'allais vous proposer d'abord de ne pas dissocier l'enseignement supérieur des autres niveaux du système éducatif. Parce que le problème, en principe, il est global. Mais, puisque nous parlons de l'enseignement supérieur, je dois vous dire que, actuellement, tel que ça fonctionne actuellement, l'incidence n'est pas visible. Ou je pourrais dire que l'impact de notre enseignement supérieur sur le développement, vraiment, n'est pas visible. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, il n'y a pas de vision. De cette vision nationale pour notre enseignement. Et je dois vous rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, Mandela disait toujours que toute action qui ne relève pas d'une vision, ça ne donne absolument rien. Et c'est notre problème. Et si nous devons parler de l'Expo 2014, ou de 2014, c'est-à-dire que la réunion des chefs d'établissement, nous devons d'abord analyser ce qui a motivé cette histoire-là de l'Expo. Quand nous analysons les choses actuellement, on ne voit pas que, on ne peut pas dire qu'il s'agissait de développer l'enseignement. Parce que ça n'amène pas grand-chose sur la question de l'enseignement supérieur. Et moi, je suis même prêt à dire que il y avait des ambitions peut-être financières, parce que si vous analysez le côté financier de cette affaire-là, monsieur le journaliste, c'est ça qui fait mal. Ça rapporte de l'argent.
Donc pour vous, c'est une affaire de gros sous.
Oui, donc c'est beaucoup d'argent.
Il y a des gens qui tirent profit.
Oui, non, il y a beaucoup de gens qui tirent profit, en commençant par les organisateurs, c'est le ministère.
Oui.
L'enseignement supérieur comme tel ne tire pas profit de cette affaire-là. Et moi, je dirais que sur le plan national, en fait, on a établi un système qui est là seulement pour rançonner ou tout simplement exploiter les parents. L'Expo, ça serait une bonne chose si on pouvait dire que d'année en année, on voit des changements dans la qualité de l'enseignement. Mais, monsieur le journaliste, je dis que c'est pitoyable et ça fait très mal au cœur.
Olivier, reconnaissons tout de même qu'il y a des efforts qui sont menés, consentis par le gouvernement congolais pour arriver quand même à améliorer les secteurs. Nous pouvons citer quelques cas. Les professeurs se sont retrouvés à Zongo autour du ministre de l'enseignement supérieur universitaire intérimaire, monsieur Makere Mwangu, et il avait sorti quelques recommandations. Nous avons tous suivi. On a reçu dans cet studio lui-même le numéro 1 du ministère qui a expliqué en long et large les ténèbres et les aboutissants de ce genre de rencontres pour toujours chercher des voies, des moyens, donc des solutions idéales. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons vu la loi cadre révisée pour toujours chercher des solutions. Alors, je crois qu'à ce niveau, nous devons encourager quand même cet effort.
Non, M. le journaliste, voilà, vraiment, je suis désolé, mais avant de parler des efforts, nous devons voir d'abord la viabilité même de nos établissements. Est-ce que nos établissements sont viables? On ne peut pas faire de bonnes choses, on peut faire une bonne soupe dans des casseroles pourries. Là, nous sommes d'accord. Alors, nous avons d'abord la viabilité, et puis, je crois qu'il y a une chose qu'il faut souder. C'est que, de plus en plus, notre enseignement se devient l'enseignement de la négritude. La solidarité négative, c'est ça qui fait notre enseignement.
Voilà, donc je retiens des choses, Olivier. Vous avez parlé de la vision nationale. Il faut en évoquer quand même quelques propos de Nelson Mandela. Deuxièmement, vous parlez de la viabilité de nos instituts supérieurs et universitaires. Donc, si jamais on pouvait améliorer les conditions de travail, ça pourrait donner le résultat. Mais sinon, vous demeurez, pessimiste quant au résultat que cela pourrait donner donc la cinquième édition de la conférence des chefs d'établissement. Merci beaucoup, Olivier. Albéric, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour, Madame l'Évité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capien. Ok. Quant à la question de savoir si ce secteur pouvait-il contribuer chaquement au développement du pays, je crois oui. Le problème se pose à quel niveau? Le problème se pose au niveau de la politique du gouvernement. C'est-à-dire, au-delà de la politique des universités, je crois qu'il faut absolument que le gouvernement fournisse vraiment un effort afin d'avoir une mesure d'engagement des nouveaux diplômés. Mais aussi, orienter certaines cultures dans les facultés, surtout à caractère technique, vers la création d'emplois. Et cela ne pourra s'organiser à partir de la volonté du gouvernement. Je voulais y aller avec un exemple. Si le gouvernement pouvait utiliser, par exemple, les techniciens de l'IDTP, en définitive, je crois qu'ils pouvaient se retrouver par la manière telle que les finalistes de l'IDTP, en sortant à l'université, le gouvernement peut leur proposer, par exemple, la manière de préparer des petits projets avec un petit financement et à la longue, le gouvernement pouvait revenir à la réseau et utiliser ces projets-là. Et ça pourra encourager les étudiants lorsqu'ils sont finalistes de pouvoir se mettre sérieusement au travail tout en sachant qu'ils auront quelque chose comme gueule et mettre en valeur, donc valoriser leur secteur éducatif. Et en dehors de tout cela, je peux aussi dire ceci.
Rapidement,
réformes à réformes, mais aussi longtemps que le gouvernement ne tiendra jamais compte de la sortie des finalistes dans les universités, je crois
que
parce que nous avons nombreux de scientifiques. Notre pays est gauche, alors nombreux de scientifiques qui s'y connaissent facilement. Mais l'orientation de ces connaissances,
les finalistes, voilà, on les utilise mal. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Albéric. Les temps nous talonnent. Il nous reste quand même deux ou trois minutes. On va conclure avec notre invité. Il est temps d'accorder quand même la parole à Ibrahim, qui est à Boutembo. Ibrahim, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, Ibrahim, rapidement, quel est votre point de vue à la question de savoir quelle est l'incidence du secteur de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique sur le développement de la RDC, avec comme question principale, selon vous, comment ce secteur peut-il contribuer efficacement au développement?
Oui, selon moi, c'est Ibrahim, comme vous l'avez dit depuis la ville de Boutembo, je proposerais que l'on puisse d'abord faire une étude sur le besoin réel de la société congolaise, qu'on sache si nous avons besoin de quel type de personnes qui ont suivi tel type de formation. Et qu'on puisse mener une étude statistique qui permettra de connaître aussi combien de gens sont déjà produits et combien de gens que la société est en train de rechercher. Cela permettra de pouvoir encourager certaines facultés, certaines branches et même d'autre part fermer certaines branches ou facultés ou options d'une manière temporaire. C'était juste ça ma contribution.
Merci beaucoup Ibrahim d'avoir appelé des Boutembo 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Madame Nadège Ngombe Kabamba, professeure à l'UNIKIN et présidente de la sous-commission scientifique de la conférence des chefs d'établissement des instituts supérieurs et universitaires, ainsi que l'exposition des œuvres de l'esprit de ce secteur. Vous avez suivi. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que d'abord, vous rappelez les dates pour l'organisation de cette cinquième édition, les objectifs poursuivis et une réaction à chaud par rapport à la conclusion donc sur les interventions des uns et des autres.
Ok, merci beaucoup. Alors, je dirais que nous allons nous retrouver du 11 au 15 octobre 2014 pour la cinquième édition de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire et pour l'exposition des œuvres de l'esprit. Nous aurons deux sites. Nous serons à l'Académie de Beaux-Arts pour l'exposition des œuvres de l'esprit et pour les tables rondes de la conférence chef d'établissement, nous serons à l'hôtel Béatrice. Alors, comme objectif, nous voulons c'est que...
L'hôtel Béatrice, c'est à la gare centrale.
Oui. Alors, je dirais que nous voulons que cette fois-ci, l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique soit réellement partie prenante à l'émergence de la RDC d'ici 2030. Par nos réflexions et nos recommandations, nous pensons pouvoir réellement contribuer à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Alors, à chaud, je dirais ceci aux derniers auditeurs. Nous avons une vision pour l'enseignement supérieur et elle est déclinée à travers notre plan stratégique. Nous avons une vision. Je pense qu'il faut de temps en temps visiter le site web de l'enseignement supérieur. Vous allez apprendre que beaucoup de choses se font et que si nous tous la main dans la main, nous pouvons parvenir à ce que nous pensons de l'enseignement supérieur puisse être amélioré. Alors, je dirais en conclusion que nous sommes un pays africain. Nous sommes partie prenante à tout ce qu'il y a comme recommandation de l'Union africaine et je dirais que c'est depuis 2007 que l'Union africaine encourage tous les pays d'Afrique à ce qu'ils puissent mettre l'accent sur les sciences, les technologies et l'innovation pour que l'Afrique puisse réellement décoller. Et je pense que la RDC a saisi cette occasion. Nous mettons l'accent sur les sciences, nous mettons l'accent sur la technologie et sur les innovations à travers cette grande conférence que nous allons avoir du 11 au 15 afin que la RDC puisse réellement décoller.
Nadège Ngombe Kabamba, professeur à l'UNIKIN, président de la sous-commission scientifique de la conférence des chefs d'établissement des instituts supérieurs et universitaire pour l'exposition des œuvres de l'esprit de ce secteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.
Merci.
Voilà, vous tous qui avez suivi ce débat, merci également. Nous saluons Pierrot et la Mégie et Julie Fézin qui ont réalisé ces programmes mis en onde par Héritier Sidiakala, présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon suivi des programmes sur Okapi.